Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
On se retrouve dans quelques instants avec Yvan Le Bolloc, c'est mon invité. On parlera avec lui de la série En Famille qui sera diffusée ce soir à 20h50 sur M6. Et puis à 10h30, on parlera d'un autre programme d'M6, L'Amour est dans le Pré. Dites-nous si vous pensez que cette série caricature les agriculteurs. Il y a une petite polémique autour du programme. Je sais que vous êtes fan, en tout cas ça a très bien marché hier soir. 0826 300 300, à tout de suite avec Yvan Le Bolloc.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. Mon invité aujourd'hui, c'est Yvan Le Bolloc. Bonjour Yvan Le Bolloc.
Bonjour.
Gilles Gansman est là également.
Bonjour,
bonjour Gilles. Yvan Le Bolloc, alors je ne sais pas sur votre... Il n'y a plus la profession à passeport, mais...
Non.
Guitariste, musicien, oui. Comédien, oui. À la télé, au cinéma, au théâtre, on va en parler, de votre pièce Bouchon.
Vive Bouchon.
Et puis ce soir, eh bien, un prime time dans famille. On est très content de vous retrouver, de vous avoir avec nous sur Sud Radio. À 10h30, on parlera de L'Amour est dans le Pré. Est-ce que vous suivez cette émission? Est-ce que vous trouvez que les agriculteurs sont caricaturés? On aura ce débat avec vous. Et puis, on parlera sécurité routière à partir de 11h dans les débats. Alors, on va commencer avec les appels des auditeurs.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Qu'avez-vous regardé hier soir à la télé? Hier soir, je peux vous donner quelques audiences que Rémi Pernelet vous a données tout à l'heure. Il y a Jamais sans toi, Luna, sur TF1, qui est arrivée en tête avec 3 766 000 téléspectateurs, 17,5% de part de marché. C'était adapté d'une histoire vraie, ça a plutôt donc très très bien fonctionné. Deuxième position, L'Amour est dans le Pré, 3 527 000 téléspectateurs, 16,4% de part de marché. C'est moins que la semaine dernière, 300 000 de moins. Et puis en troisième position, c'était les derniers épisodes de la série À l'intérieur, 2 677 000 téléspectateurs et 12% de part de marché. Vous avez regardé quoi, vous, Yvan? Vous regardez la télé?
Hier, j'ai fait un massage des pieds à ma femme.
Bah, dis donc, ça a duré longtemps.
Ah, c'était un bon massage, ouais, parce qu'après, il y a le match retour, c'est-à-dire qu'elle me fait elle-même un massage.
Ah ouais, bon, voilà. On n'en veut pas en savoir plus. Allez, on a avec nous Marc au 0826 300 300. Bonjour Marc, vous avez regardé Bonjour. France 2, c'est ça?
C'est ça, j'ai regardé À l'intérieur hier.
Ouais.
Très bien construit, très bon film.
Vous aviez suivi les épisodes précédents?
Oui. Et une très belle conclusion, c'était le 12e. Oui, c'est vrai que c'était un très 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 bon moment.
Bon, très bien.
Vous n'avez pas massé votre femme?
Ah non, je n'ai pas passé dans
la pauvre.
Fanny est en ligne avec nous. Fanny a regardé TF1, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bonjour. Ouais.
Bonjour. Alors, vous avez été émue par cette histoire, l'histoire de Johan et de Sabrina Bombard, donc un jeune couple qui avait été accusé à tort de maltraitance sur l'un de ses enfants.
Oui, voilà. D'autant plus quand on sait que ce film était très bien interprété. Quand on sait que c'est une histoire vraie, ça donne à réfléchir.
Oui.
C'était la parole d'un chef de service de clinique contre la parole d'un jeune couple très réservé et un peu maladroit dans leurs attitudes, quoi, disons.
Oui. Et donc, vous avez regardé, ça vous a plu, vous avez été...
À la fin, franchement, parce que jusqu'à la fin, on a vraiment le doute de savoir ce que va devenir cette petite fille.
Ouais. Donc ça vous a plu, ça a bien fonctionné. Et puis on a encore un appel, Claudie qui est en ligne avec nous. Claudie, vous avez regardé France 3, me dit-on.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Avec plaisir, je vous réponds.
Oui.
Tout simplement parce que j'avais un peu d'hésitation, mais je ne le regrette pas parce que si le scénario était très très léger, mais par contre très très bien interprété, d'une France qu'on ne connaît plus maintenant, ça nous ramène des années, pas trop d'années en arrière, mais je pense qu'il y avait un lien beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Voilà, je ne regrette absolument pas.
C'était Les Enfants du Marais.
Les Enfants du Marais sur France 3, un très très beau film. Vous la regardez la télé ou pas, Yvan Le Bolloc?
Bien entendu, ah oui, je suis un fou de télé. Et je regarde surtout je regarde tout. Je suis assez curieux. Et maintenant, on a une offre quand même avec les chaînes du service public. Là, je pense à C'est Politique. C'est la dernière émission que je regardais avec ce formidable maire en Bretagne.
Sur les pesticides.
À Langouette, monsieur Cuerf. le maire Courage. Et donc, mais je regarde tout avec la même intensité. Des fois, ma femme me dit, mais une publicité, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ça ne demande pas le même investissement intellectuel que de regarder l'émission de débat. Mais je suis littéralement happé. Enfin, je suis vraiment un enfant de la télé. Moi, j'ai grandi avec La Piste aux Étoiles. Il y avait encore 2-3 chaînes à l'époque. Même une, peut-être. Donc, maintenant, il y en a à tire-larigot.
Ça fait du bien parce que souvent, on a des invités qui disent, non, je regarde pas la télé, j'ai pas le temps. Donc, c'est bien d'avoir un vrai enfant de la télé, quelqu'un qui regarde la télé et qui le dit, quoi, qui le revendique.
Oui. Je...
Vous regardez tout, il y a des choses un peu inavouables, Yvan Le Bolloc.
Alors ça, non.
Non,
c'est-à-dire que là...
Vous assumez tout.
Oui, et... Non, il faut quand même que ça raconte quelque chose.
Ah, les anges de la télérité, non?
Non, ça, c'est pas possible.
La télérité?
Non, là c'est de la vacuité absolue, donc... Et profiter de comment dirais-je... De ces pauvres jeunes, là, qui ont à peine 2-3 mots de vocabulaire.
Vous pensez pas qu'eux, ils en profitent également? Que ça leur fait de l'argent facile et que c'est des héros de
De l'argent facile là, comme ça, non. Non, pour moi, il n'y a pas d'argent facile en passant à la télévision. Ou alors, il y a un loup. Ou alors, après, tu te mets une balle dans la tête parce que tu te retrouves tout seul après avoir brillé quelques temps dans le petit écran et t'être cru arriver dans un monde magnifique. On est juste en train de filmer ta paire de baskets qui se déchire, mon coco. Hein. Il faut juste un petit peu se calmer, quoi.
Alors, on va revenir dans un instant à votre actu avec ce soir, donc sur M6 en famille. Mais Gilles regarde, lui, la télé tous les soirs et c'est le zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors Valérie, et voici donc dans le zapping du jour, le sommaire, vous allez avoir l'avocat Éric Morin sur C'est à vous sur France 5 qui défend une des plaignantes qui a attaqué Tariq Ramadan et vous allez voir, il est revenu sur la notion du viol. Et puis sur BFM, on a retrouvé ceux qui ont sauvé l'honneur de notre Brigitte Macron nationale grâce à une simple banderole. Et puis l'infirmière Brigitte Levavasseur, une des figures des Gilets jaunes, a presque un an du mouvement est revenue, c'était aussi sur C'est à vous sur France 5, sur le bilan des Gilets jaunes. Et elle n'est pas contente. Et pour finir, et pour démarrer, la réaction de Muriel Robin hier dans C'est à vous qui réagissait aux propos tenus ici sur Sud Radio dans l'émission d'Éric Morillon par Jean-Marc Bigard. Jean-Marie Bigard. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Jean-Marc. Jean-Marie Bigard qui, vous savez, est revenu dans cette émission sur Sud Radio sur la polémique sur son sketch sur le viol où il a dit qu'il y avait, je le cite, hein, les connasses et les femmes qui se prennent pour des hommes qui ne comprennent pas l'humour comme Muriel Robin, réaction.
Quand un garçon qui n'est pas mon ami, ce qu'il avait écrit sur Facebook, c'est pas le cas. La dernière fois que j'ai dîné avec lui, c'est en 89. Quand on dîne pas, ni déjeuner, ni petit-déj pendant 30 ans, le mot ami, je le trouve un peu
fort.
Un peu déplacé, mais bon. Mais je veux dire la même chose, Jean-Marie, tu as une fille, et j'espère vraiment pour toi qu'un jour, il n'y aura pas, avec ce que tu as dit, cette jolie blague, un garçon qui sera dit, tiens, ça je vais le faire, et que ça tombera pas sur ta fille. C'est vraiment tout ce que je te souhaite, parce que tu seras très malheureux.
On a une image très cinématographique du viol. On pense que c'est une femme qui se débat, qui hurle, violée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. 90% des personnes violées sont violées par quelqu'un de leur entourage qu'elles connaissent. Et elles sont dans un état de sidération. Et lorsque Monsieur Ramadan dit, quand une femme dit non, c'est non, justement, les femmes violées ne disent pas non. Elles n'y arrivent pas.
Tu es belle, Brigitte, c'est le message affiché ce week-end, sur un pont périgueux, alors depuis Mystère à Périgueux, qui est à l'origine de cette déclaration, il s'agit d'artistes locaux. Ils ne souhaitent pas montrer leur visage pour que l'attention, disent-ils, soit uniquement consacrée à leur production, à la banderole. Donc, selon eux, l'objectif de l'opération de ce week-end, c'est en fait de dénoncer le sexisme dont a été victime la première dame.
Je pense qu'on n'a pas répondu à l'essentiel. Je ne dis pas qu'on peut entendre toutes les revendications parce qu'elles étaient tellement nombreuses et incohérentes parfois. Mais je pense qu'on n'a pas répondu aux revendications premières qui étaient répondre à la précarité des très précaires, voire des précaires, des familles monoparentales, de ceux qui souffrent le plus souvent et qui sont encore en souffrance, mais qui n'osent parfois même plus sortir dans la rue ou manifester parce qu'ils ont peur.
Alors, évidemment, je vais vous faire réagir sur ce dernier son, Ingrid Levavasseur.
Ingrid Levasseur, c'est désagréable, c'est même insupportable. Comment ça a tourné pour cette aide-assistante
infirmière. Elle est infirmière.
Elle est infirmière.
Dans un EHPAD.
Moi, je la trouvais, et je la trouve toujours absolument courageuse, formidable, très digne, très... Et elle s'est fait littéralement déchirer, quoi. Enfin, elle en a pris plein la gueule, traité de tous les noms. Et ça, c'est un côté un peu... enfin, pas un peu, c'est le côté extrêmement... je vais pas utiliser violent parce que je vais reprendre un terme qui est utilisé à tort et à travers, mais c'est
détestable, on va dire.
Oui, détestable. Un des travers
du mouvement.
Du mouvement qui effectivement est un peu comme un enfant qui grandit quoi, très très vite. C'est-à-dire que ces gens-là se sont retrouvés, je parle des gilets jaunes, se sont retrouvés en train de découvrir ce qu'était la lutte sociale en fait, sans aucun code. C'est-à-dire qu'à un moment c'était voilà une colère qui une soupape qui a pété et voilà tout ça s'est répandu et à tel point que quand je parle avec certains gilets jaunes mais qui me disent mais quand on est arrivé sur dans les manifestations on ne savait pas dans quel sens fallait aller.
Donc c'est la première fois pour beaucoup d'entre eux qui manifestaient. Vous y êtes engagé, auprès des gilets jaunes, vous êtes allé manifester, alors, on vous a vu à leur côté.
Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit chez les gilets jaunes, mais pour moi ce qui est important c'est de pouvoir manifester y compris son mécontentement et ça que on s'aperçoit aujourd'hui, enfin moi je m'aperçois, je suis pas le seul hein, je pense, demander à David Dufresne ce qu'il en pense, celui qui a recensé toutes les violences policières avec ce fameux ce fameux hashtag Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement, c'est qu'aujourd'hui il est pratiquement impossible de manifester en France, à moins de d'être un cascadeur, de courir très vite, d'être super costaud, d'avoir des thunes pour payer les amendes, c'est du 135 euros, en veux-tu en voilà, t'as un pin's jaune dans la poche, tu morfles, t'as un ballon jaune, tu morfles, t'as un gilet jaune, tu morfles.
Mais y a pas, est-ce que c'est pas un peu manichéen de dire il y a les gentils gilets jaunes et les méchants policiers? C'est-à-dire, est-ce
non, c'est pas ce que je
parce
dis.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des manifs qui sont possibles. Celles des gilets jaunes ont aussi été parfois très violentes de leur part. Donc, il y a eu d'autres manifs qui se sont bien passées.
Oui,
donc,
bien
dire
sûr.
Qu'on peut plus manifester en France, c'est
mais,
pas.
Mais si vous me parlez de la dernière que j'ai faite, c'était le 1er mai, c'était la manif du 1er mai. Que je sache, la manifestation du 1er mai, c'est une manifestation absolument pacifique, c'est la manifestation des travailleurs, et elle a été littéralement saccagée par les forces de l'ordre. Et moi, je les ai vus, armer leur LBD, armer les GLIF4, nous en balancer sur la gueule, alors qu'on était justement tranquillement en train de manifester le 1er mai, qui, je le rappelle, n'est pas la fête du travail.
Non. Et vous êtes d'accord avec Ingrid Levavasseur? Les gilets jaunes sont passés à côté de leur premier objectif sur les gens qui étaient démunis, qui étaient dans la précarité, et finalement, on n'a pas répondu à leur question, et que c'est plus une politique anti-Macron qui a pris le dessus. C'est ce qu'elle a dit hier dans cet aveu. Vous êtes d'accord avec ça?
Est-ce que vous pouvez me résumer la question? Parce qu'elle était super longue, et puis j'ai décroché des
minutes. Non, parce que dans le zapping, Ingrid Levasseur disait que finalement, les gilets jaunes n'ont rien apporté à ceux qui étaient dans la précarité.
Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que sur les ronds-points, je pense que à travers toutes ces luttes, tous ces moments de solidarité, de connivence, il y a ce qui manque cruellement maintenant dans beaucoup de ce qu'on appelle le périurbain, la province, les banlieues, du lien social. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est sans doute à cause de ça que le mouvement perdure, et aussi parce que aucune réponse n'a été
donnée. Mais ça veut dire quoi? Vous voyez comment la suite? Est-ce que ça peut redémarrer? Est-ce qu'il peut y avoir une mobilisation?
Je ne lis pas dans le marc de café. Ce qui est sûr, c'est que les gilets jaunes peuvent continuer à manifester comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin tous les samedis s'ils ne musclent pas leur discours et s'ils n'essayent pas de se rapprocher des syndicats pour faire une conversation l'agence des luttes et obtenir un rapport de force qui puisse à un moment faire bouger les choses. Mmh. Voilà, si s'il n'y a pas convergence de lutte, ça durera encore. Ouais, non.
Mmh. Un mot sur l'échange Jean-Marie Bigard, Muriel Robin. Sur l'humour, c'est quoi. C'est-à-dire que c'est. Hein. Oui, c'est compliqué, mais.
C'est délicat. C'est délicat.
Parce que vous êtes potes avec les deux, c'est ça?
Non, je connais. Ni l'un ni l'autre.
Mais c'est les limites de l'humour, en fait, que pose Muriel Robin, pareil, qui est quand même curieux de la part d'une humoriste, de dire à Jean-Marie Bigard, tu peux pas plaisanter sur les femmes parce que ta fille va se retrouver. Je trouvais l'argument assez détestable, hein, mais.
Ouais, mais j'ai pas suivi ça. Je trouve que l'un comme l'autre. Ils sont dans une démarche qui est courageuse.
Engagée.
Engagée, parce que c'est pas facile aujourd'hui, comme fait Jean-Marie Bigard, de dire que la seule force d'opposition valable dans ce pays, c'est les Gilets jaunes, qu'il appelle à une nouvelle nuit du 4 août, à une nouvelle révolution, et de dire que le public aujourd'hui, il ne peut plus se payer des places pour aller voir, pour rigoler et se taper sur les cuisses en famille. À 45 balles, même pas à 30 balles, c'est devenu hors de prix. Et donc lui, il fait, moi voilà, je fais des places à 5 euros. Moi, je trouve que c'est très, 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 très audacieux. Et ils sont très, très peu à sortir du bois en ce moment et se positionner du côté des gilets jaunes. C'est pas très, d'un point de vue marketing, c'est horrible. Mmh. Là, tu te dis, mon pote, t'as envie de te mettre un petit coup de couteau dans ta carrière, vas-y. Voilà. Donc moi, je lui reconnais, en tout cas, cette audace. Après, en ce qui concerne l'humour, c'est la chose la plus difficile à partager au monde avec les granolas. Voilà. Donc,
ça, c'est compliqué. Surtout les granolas. On va parler quand même de votre actu. C'est vrai qu'on discuterait assez longtemps avec vous et nos auditeurs de Sud Radio sont nombreux à dire « Yvan, je vous adore. Merci Yvan. » On peut dire « Merci Yvan. » Bref, vous êtes en tout cas très très populaire chez nos auditeurs de Sud Radio. Ils vont vous retrouver ce soir sur M6 en famille. Alors vous avez été déprogrammé à cause des femmes. C'est un épisode
à cause du foot
féminin. M6 s'est rendu compte que ça faisait de l'audience et donc cet épisode qui devait être diffusé au début des vacances est diffusé ce soir et ça fait du bien parce que on a l'impression de repartir en vacances. Mais j'ai regardé hier
drôle,
et ça fait du bien. Racontez-nous un petit peu vous le plaisir que vous avez parce que ça sent à jouer ce père de famille divorcé.
Oui, un petit peu
largué quand même.
Oh, oui, complètement. Au fraisier, ouais. Il fait partie de ces papas qui, à un moment, ont lâché la proie pour long. Ils sont partis avec des femmes qui sont irraisonnablement plus jeunes que lui. Donc je pense que sa femme qui est hôtesse de l'air doit avoir à peu près 25 ans de moins. Et puis qui ensuite se sont aperçus que ils ont mené une vie absolument égoïste et qui se sont pas du tout tournés vers leurs enfants et qui n'ont pas répondu aux attentes des enfants et puis qui sur le tard là essayent
de rattraper
le coup et de la pire des manières en étant extrêmement populaire, démago, tu veux un iPhone, mais bien, il n'y a pas de problème, en essayant de s'habiller un peu comme eux, d'une façon un peu ridicule. C'est-à-dire que quand vous voyez un mec qui passait 55 ans continue à porter des Teddy et des Converse, il y a un petit souci quand même. Ouais. Voilà, c'est le personnage de Yvan, que j'interprète dans cette série et que j'aime beaucoup parce que c'est une série que j'ai réalisée en tout cas dans le format court.
Oui, j'avais oublié réalisateur dans la ribambelle de vos qualités.
Oui, vous avez oublié aussi entraîneur de sumo pour personnes âgées, titre auquel je tiens particulièrement.
Ah ben, sans doute,
blague, absolument.
Moi, je vous saignais des cours. Ouais.
Je me disais pourquoi pas. C'est un nouveau métier. Donc il y a ça, il y a le théâtre aussi.
Oui, alors
Vive Bouchon, faut en parler quand même
parce que
ça correspond quand même aussi à vos engagements, le thème de la pièce.
Mais écoutez, c'est en partie pour ça que j'ai accepté cette proposition d'Éric Logérias, le metteur en scène. C'est une pièce absolument formidable qui a été écrite par Gérald Sibleras et Jean Del et qui raconte ce petit village, ce hameau qui s'appelle Bouchon, qui est maintenu en vie. Grâce au maire, Jacques Mandrin, avec son assistante de mairie et son petit frère. Et donc, il subsiste grâce uniquement grâce à Bruxelles, grâce aux subventions
européennes
qui tirent à droite à gauche pour maintenir l'école. Il a besoin de 4 enfants scolarisés à l'école de Bouchon, sinon ça ferme. Donc il envoie son petit frère qui a 35 ans en CM1. Il se charge lui-même de casser les vitrines, enfin la vitrine du village pour pouvoir toucher les subventions pour les quartiers en difficulté. Et voilà, il aime son village, il fait tout pour qu'il ne meure pas jusqu'au jour où Bruxelles commence à trouver ça un peu suspicieux et envoie un envoyé, un émissaire, et là il va falloir rendre des comptes, et là la pièce passe à une vitesse stratosphérique de comédie dans un rythme effréné. Et je fais ça tous les soirs donc avec Nathalie Corré, ouais. Julien Caffaro et Sébastien Pierre.
C'est au Théâtre Splendide. Vous allez partir en tournée peut-être?
J'espère. Alors ouais. Je dis à tous les copains qui sont en province de téléphoner, parce que Paris, évidemment, c'est une ville de provinciaux. Non, à tous les gens qui sont à Paris, en banlieue, qui viennent voir le spectacle à Paris.
Parce que
on a du succès à Paris,
vous en aurez...
ensuite on partira en province, et je pense qu'on peut faire une tournée qui va durer 2-3 ans. Parce que ces problèmes qu'on évoque, évidemment, c'est ceux du périurbain, des petites provinces, des petites campagnes, où c'est les maires, comme Daniel Kers, se battent, parce que il faut savoir que quand l'État n'assure plus la protection de ses administrés, alors il revient au maire le devoir de protéger sa population,
de protéger les populations.
Et donc du coup de prendre des arrêtés contre les pesticides. Et moi je tirose mon chapineau, ça se mère courage de Langouette. Vraiment, vous êtes un monsieur formidable, et moi j'adorerais habiter chez vous. Et d'ailleurs il paraît que les demandes de affluent
pour aller dans ce village.
Dans ce village,
on vous retrouve. Claudine nous dit: j'aime beaucoup cette série, elle est très sympa, belle réussite. On va vous regarder ce soir à 21h sur M6. C'est un petit air de vacances avec cet épisode de la famille
en Bretagne.
En Bretagne, forcément, le Bollock, la famille Le Carvelec, tout ça.
Ça va sentir le cidre et la bolée jusqu'au bout du salon.
Les palourdes et avec des gambas. Il y a des gambas en Bretagne. Vous allez découvrir
vous comprendrez
ça.
Pourquoi.
Voilà. Petit teasing. Merci beaucoup, Yvan Le Bollock, d'être passé par Sud Radio ce matin. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'amour et dans le pré. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous jusqu'à midi, 11h midi, on verra sur les sujets qui font l'actualité. On va parler GPA avec cette annonce ce matin. Enfin, on ne sait pas, c'est annoncé et démenti. Le gouvernement, finalement, adopterait une circulaire qui accepterait la filiation, c'est-à-dire que des enfants nés de GPA à l'étranger, c'est automatiquement... légaux en France. J'ai perdu mon petit papier. Donc voilà, on parlera de la GPA tout à l'heure. Est-ce que c'est une forme d'hypocrisie, une forme de légalisation de la GPA en quelque sorte? On parlera également de la sécurité routière avec un nombre de morts qui a augmenté encore sur les routes. La faute aux radars cassés, la faute aux 80 km qui ne servent à rien. On en parlera avec vous dans quelques instants. Une polémique sur laquelle on avait envie de revenir. Certains critiquent L'amour est dans le pré, estiment que c'est une émission qui caricature les agriculteurs, qui ne donne pas une bonne image des agriculteurs. Je rappelle quand même que c'est un programme de télévision, que ce n'est pas un documentaire. Donc voilà, on peut se détendre aussi un petit peu. Mais ça nous permet aussi de parler des agriculteurs et de l'image qu'ils ont aujourd'hui en France. On en parle avec Annie Ogras. Bonjour, vous êtes candidate, vous êtes agricultrice, vous êtes éleveuse de chevaux à Frazé dans le Perche. Vous êtes membre de la coordination rurale en Eure-et-Loire. Et vous avez été candidate de l'émission en 2012.
Oui, bonjour Valérie.
Voilà, vous avez rencontré l'amour ?
Hélas, non, pas à la suite de l'émission.
Bon, pas à la suite de l'émission. Et Paul Charland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partenaire fondateur de la Société des fermes agro-écologiques et cofondateur d'Alancienne. C'est une plateforme de livraison à domicile de produits frais et bio dans le Grand Paris, en Ile-de-France. Très bonne initiative. Vous êtes un petit peu plus critique. Vous n'êtes pas trop fan de l'émission. Non.
Moi, je pense qu'elle a, comme vous avez dit, le don de faire parler des agriculteurs.
Ouais.
Et aujourd'hui, ça reflète un peu le problème de notre société. On s'est complètement déconnecté de l'agriculture. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ne connaissent pas le nom de leur médecin. Vous aimeriez pas vous faire opérer par un médecin dont vous ne connaissez ni le nom, vous ne savez pas d'où il vient et vous ne connaissez pas ses diplômes. Et pourtant, personne ne connaît le nom de ces agriculteurs et de ce qu'ils leur donnent à manger tous les jours, et qui sont en fait les vrais responsables de leur santé.
Mais est-ce qu'on ne les connaît pas quand on habite en province, quand on va chercher à la ferme ou...
Ah bah j'espère,
oui.
Un peu plus.
Oui, c'est ça.
Mais la réalité, c'est que les urbains sont complètement déconnectés de la réalité. Donc ça a le don, au moins, de faire parler un peu de l'agriculture en France. Ouais. Et ça, c'est intéressant.
Mais sont les personnages, vous, qui vous dérangent? Vous avez un peu l'impression qu'on en fait... Tiens, je vous propose d'écouter un extrait d'un agriculteur qui fait beaucoup, beaucoup réagir. Écoutez.
T'as un accent, ouais. Hein?
Ah non. On dit toujours, je parle d'avenir d'un accent, non?
Comment?
Dis-moi, excuse-moi parce que je vais t'expliquer un truc. Moi, je parle vite, hein.
Ah, j'aime bien, moi.
Alors, le second mot arrive avant le premier. Alors, il faut...
Ça va être
sympa. Non, je t'explique, tu rencontres un type, mais le mec, il est assez...
J'ai pas compris.
Tu rencontres un type, il est pressé, mais si ça presse.
Tu rencontres un paysan, quoi.
Voilà, ça, c'était Didier.
C'est la star du moment.
La star un petit peu du moment. Ça, pour vous, c'est caricatural?
Alors, caricatural, je sais pas. Oui, c'est vrai que peut-être ils l'ont pris pour ça et ce serait peut-être dommage. Après, en vrai, on a tous des gens autour de nous qui parlent très vite et on comprend un mot sur deux. Hein. Et moi, j'ai des amis qui sont ingénieurs, j'ai des amis qui sont entrepreneurs et parfois, on leur fait répéter parce que on n'a pas compris un mot qu'ils disent. Donc après, moi, je sais pas. La réalité aussi, c'est que il n'y a pas les agriculteurs, enfin, il n'y a pas l'agriculture. Ouais. Des agriculteurs, il y en a partout. Quand vous pensez aux viticulteurs de la Romanée-Conti et que vous pensez à l'éleveur de lait en Normandie, il y a quand même un énorme gap. Ils ne font pas le même métier, ils n'ont pas les mêmes revenus et ils n'ont pas le même train de vie. Ouais. Donc, il y a un moment aussi, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et il y a de tout. Y a
non,
de
mais
tout
c'est
dans
une profession. C'est une profession. Ouais. Annie Ogras, alors vous défendez l'émission.
Ben moi, je défends l'émission, bien sûr. Et pourtant, ça ne s'est pas très, très bien passé pour moi parce que mes prétendants n'étaient pas très sincères, on peut dire ça.
Ils voulaient faire de la télé?
Mais c'est difficile, hein, de,
ils ont utilisé
leur poser
ça
la question
pour
à eux,
à
mais
la
je pense, oui, je pense que oui, mais ça arrive beaucoup, hein.
C'est le travers de l'émission.
Hein. C'est le travers de l'émission, mais ça, c'est pas la faute de l'émission, hein, c'est le...
Bah, ils choisissent un peu, hein, les prétendants, hein. Ils lisent les courriers avant, hein. Vous avez pas accès à tous les courriers.
Ah, je suis pas sûre.
Ah, mais je vous le dis.
Ouais. Ah, je suis pas sûre.
Ouais.
Bon.
Ouais. Bah, et donc,
oui. Et pourquoi entre les courriers? Parce que je pense qu'ils enlèvent déjà les lettres d'insultes, hein, je pense. Mais je pense qu'ils nous donnent quand même à peu près
la grande partie des trucs. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à participer à cette émission?
Eh ben moi, j'avais un amoureux avec qui je m'entendais pas du tout bien. Ouais. Donc à l'époque, je regardais déjà l'émission, j'étais déjà fan, et puis je disais toujours, bah si j'ai un jour on se sépare, je m'inscrirai à l'émission. Et puis le jour où il est parti, bah je me suis inscrite à l'émission et j'ai attendu un an avant qu'il m'appelle. D'ailleurs, j'étais très surprise parce que j'y croyais plus. Et voilà, c'était parti. On passe les castings et puis on fait l'émission. Mais je trouve que c'est une très belle émission parce que d'abord les images sont magnifiques.
Oui, ça, l'avantage de montrer la
France
campagne,
est déjà un pays somptueux. Les images sont vraiment très bien tournées. Les régions de France sont très dispersées et très différentes. Et donc, ça fait vraiment, ça montre vraiment la qualité de la campagne française. Et ça montre la vie des agriculteurs. Alors, bien sûr, ça peut être un peu caricatural. C'est difficile de filmer pendant 16 heures par jour et puis de montrer 8 minutes. Obligatoirement, le montage choisit des moments un petit peu amusants c'est pas facile de faire un montage, hein, quel que soit ce qu'on fait, hein. Après ça peut changer la donne dans le sens où si vous coupez une phrase en plein milieu, vous la sortez du contexte,
vous avez trouvé
et ça
parfois,
change un peu,
c'était un peu frustrant,
oui, mais c'est ce que les gens disent sur l'émission, mais quand même malgré tout ça, ça reflète quand même la réalité. Il y a beaucoup de gens dans les rues qui nous disent, ah mais vous êtes vrai. C'est tout juste s'ils veulent pas nous toucher pour voir si on est vrai et si on est vraiment des agriculteurs et si on n'est pas des comédiens. Non, non, on est des agriculteurs, c'est vraiment nous. Et puis, j'ai trouvé que l'émission, elle est quand même très belle. Il y a quand même 54 enfants qui sont nés, il y a 70 couples qui se sont formés. Je trouve que quand même c'est beau parce qu'il y en a besoin à la campagne.
C'est sûr que c'est un peu cheesy, mais c'est un peu le problème de la télé-réalité aujourd'hui. C'est pas cette émission en particulier. Par contre, cette émission a le don de faire parler d'un sujet dont on parle pas assez. Il y a pas beaucoup d'émissions sur les agriculteurs aujourd'hui.
C'est un vrai problème de société. Ouais. Hein. Ouais. Moi, rien que dans mon petit village, il y a des hommes célibataires qui ont maintenant 70 ans. Ils ont vécu toute leur vie avec leur maman. Mmh. Et puis, quand la maman est décédée, ils sont restés sur la ferme. Ils sortent jamais. Et ils arrivent à 70 ans sans jamais avoir eu... Ouais.
Mais est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes aussi, parfois, c'est-à-dire de faire croire qu'on peut rencontrer quelqu'un? Alors, il y a eu des vrais...
Mais il y a eu
c'est
des vrais rencontres, quand même, bien sûr.
Il y a eu 54 enfants, mais... espérer...
Oui, il a fallu qu'ils se rencontrent quand même pour faire des enfants, absolument. Hein, je pense. Hein,
on a un auditeur, appelez-nous, 0826-300-300, vous qui êtes fan de L'Amour est dans le Pré, ou pas d'ailleurs, pour nous dire ce que vous pensez de cette émission. Paul?
Oui, bonjour.
Oui.
Ben, moi, je suis agriculteur en Lot-et-Garonne.
Oui.
Ben, moi, je trouve que l'émission, ben, je suis partagé entre vos deux intervenants. Ça montre un beau visage de la campagne, mais je pense que l'animatrice dévoie un petit peu l'émission en rabaissant un petit peu les candidats, parce qu'elle n'est pas obligée de dire que le mec, il a 56 ans, qu'il n'a jamais vu une femme. Ça, c'est dérangeant, quoi. Ça, c'est de la caricature qui me dérange.
Ouais.
Ça me dérange. Au-delà de ça, ben, ça fait parler un peu l'agriculture. Aujourd'hui, on a des débats systématiquement polémiques contre les agriculteurs. Là, aujourd'hui, c'est les distances d'épandage des pesticides, ceci, cela. Il faut savoir qu'on a en gros un suicide par jour. Et un suicide par jour, c'est pas un tous les deux jours, c'est un par jour.
Ouais,
et ça, c'est le grand silence. Donc, je pense qu'il y a des drames de la solitude dans les émissions qui sont tenus à jour. Je pense qu'aussi, il y a des dames et des messieurs qui sont aussi à la solitude. Sans faire une agence matrimoniale, ça peut aider des gens. Et puis, bon, ça fait découvrir le métier. Alors, des fois, c'est un petit peu sur des travers et autres. Ouais. Mais là, je pense que l'agriculture française, il va falloir la défendre et défendre les agriculteurs.
Oui, merci beaucoup Paul. Oui, vous avez raison de le signaler. Un suicide par jour, c'est pas anodin. Paul Charland,
un tiers des agriculteurs gagnent en moyenne 350 euros par mois.
Ouais.
Il est peut-être aussi là le problème. Et en fait, finalement, c'est notre société et l'agro-industrie qui nous a coupé des agriculteurs. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont si seuls. Moi, je travaille avec des agriculteurs qui sont en circuit court, c'est-à-dire qui rencontrent les consommateurs. Et déjà, rien que ça, ça change la donne. Donc, retournons à des circuits courts et on n'aura peut-être plus besoin de L'Amour est dans le Pré pour faire rencontrer...
C'est-à-dire qu'il y aura plus de contacts entre les...
Et vous savez, c'est très important. Aujourd'hui, notre société nous a déconnectés. On a un système économique qu'on compte très bien avec le capital économique. Mais on a complètement oublié le capital social et le capital environnemental. Et le capital social est fondamental.
Ouais.
Aujourd'hui, moi, j'aime valoriser des agriculteurs aussi qui travaillent dans des associations, qui créent un tissu
un maillage,
sur leur territoire. Et c'est extrêmement important. Et c'est là où les circuits courts aussi sont pertinents. Quand vous êtes un agriculteur de lait et qu'il y a juste le tank à lait qui vient tous les matins, vous chopez le lait et vous savez même pas où il va, qui le consomme, par qui, etc. Eh ben oui, vous êtes déconnecté de la réalité.
Ouais.
Donc, et les consommateurs sont déconnectés de leurs agriculteurs. Et donc, c'est ça qu'il faut régler. Et si L'Amour est dans le Pré permet, malgré le côté cheesy et émotionnel avec les violons de l'émission, pourquoi pas ?
Pourquoi
à la
pas.
Limite, c'est un premier pas. Il y a d'autres émissions qui sont hyper intéressantes, si ça vous intéresse.
Ouais.
Les fermiers sur TV5 Monde,
qui
parlent de la ferme des quatre temps de Jean-Martin Fortier, c'est incroyable. Et là, vous avez vraiment...
Oui, là, c'est autre chose. Là, il faut quand même rappeler, quand même, au crédit et de Karine Lemarchand et d'M6, c'est une émission de divertissement aussi.
Exactement.
Et Karine Lemarchand est vraiment sincère dans sa démarche auprès des agriculteurs.
Et j'irais même plus loin. Elle les défend extrêmement bien auprès des médias, auprès des gens qui les attaquent. Et c'est pour ça, c'est très bien.
Et l'émission est leader auprès du grand public, sur les audiences.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une émission qui est très castée, qui est très structurée. C'est une émission qui vient de la Hollande et très produite. Et évidemment, vous avez vous-même fait, vous avez dit que vous avez fait passer un casting.
Oui, on passe plusieurs castings, bien sûr. Hein. Normalement, c'était pour savoir si on arrivait à s'exprimer à la télévision. Alors, avec Didier, cette année.
Oui, mais lui, c'est peut-être l'extrême.
Voilà, il est quand même très, très sympathique. C'est un personnage
absolument,
très
c'est un vrai personnage.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois que c'est même pas un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 300 euros par mois. C'est depuis 2018, deux tiers en ce moment. Hein, c'est deux tiers. Il y a une crise économique de terrible. Les suicides, c'est un vrai problème. D'ailleurs, il y a Anne-Marie, la femme de Gégé, qui se rencontrait il y a 2 ans, je crois, maintenant, qui a fondé une association qui s'appelle L'Espoir est dans le Pré, justement, pour essayer de défendre ça, que les gens prennent conscience des suicides des agriculteurs. Je pense que la solitude, c'est quand même quelque chose de très, très difficile à supporter.
Ouais.
Et les gens qui se suicident souvent à cause aussi des problèmes financiers et de la solitude derrière.
Et de la solitude,
derrière.
Oui, c'est ça, voilà, c'est une accumulation de choses. On va se retrouver dans un instant, 0826 300 300. Vincent, dites-nous ce que vous pensez de l'émission L'amour est dans le pré. Est-ce que ça donne une bonne image de l'agriculture? Est-ce que au moins c'est une manière d'en parler? 0826 300 300. Et puis cette semaine, nous vous offrons des vacances à nos auditeurs avec Bellambra. Comme vous connaissez un petit peu le procédé, vous nous appelez 0826 300 300. Vous gagnez un séjour d'une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes à choisir dans l'un des 50 clubs Bellambra, mer, montagne, pour passer de bonnes vacances en famille grâce à Sud Radio et Bellambra. Donc appelez 0826 300 300. On vous attend au standard et à tout de suite pour reparler de l'amour et dans le pré.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h-11h, on parle Média, on débat de l'actualité. Et cette fois-ci, on parle de l'amour et dans le pré. Cette émission valorise-t-elle les agriculteurs? En tout cas, vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de l'émission. Claudine nous dit, j'avais un client qui a fait la première émission, il a trouvé son épouse, il a eu 2 enfants et ils sont très heureux. Donc bon, ça c'est l'aspect personnel, mais sur l'image de l'agriculteur, vous, ça vous a apporté quoi? Alors, je vais rappeler Paul Charland, partenaire, fondateur de la société des fermes agroécologiques et cofondateur d'Alancienne. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. Et Annie Augras, donc candidate de l'émission en 2012, éleveuse de chevaux. Ça vous a apporté quoi?
Ça m'a apporté déjà que j'ai retrouvé mon ami d'enfance par l'émission. Donc, ça c'était formidable. Ouais. On était ensemble de 4 ans à 12 ans et on s'était entièrement perdu de vue. Donc, on a été très émus et on y est toujours d'ailleurs parce qu'on a gardé, bien sûr, toutes les relations. On a réussi chacun à aller dans la famille de l'autre avant que nos mamans décèdent. Et donc, c'était vraiment au bon moment. Et après, une notoriété quand même importante vis-à-vis des gens dans la rue, vis-à-vis des agriculteurs. Les gens nous reconnaissent, on est reçus partout. Avec les années, on est toujours reconnus quand même. On a des têtes qui reviennent aux gens, au moins. Ils savent plus où nous ont vus. Ils savent pas si on est la copine du cousin ou si ils nous ont rencontrés sur un terrain de concours, mais ils savent qu'on est connus et ça donne un côté sympathique formidable.
Ouais. Après, vous avez eu des offres pour faire de la pub ou des choses comme ça?
J'ai représenté un petit peu une marque de camping-car.
Incroyable.
C'est Thierry surtout. Qui est notre star nationale. Là,
Et donc ça a mis du beurre dans les épinards, j'imagine.
On peut pas dire ça parce que le côté financier, je pense que je suis pas douée pour les finances, moi. Hein, autrement, je ferais pas ce métier-là. Par amour et par passion et je sais pas trop gagner de l'argent. Voilà.
Mais vous nous disiez pendant la pub qu'au Salon de l'agriculture, l'un des stands les plus achalandés, c'est celui des candidats de l'amour et dans le pré, ils sont nombreux à venir présenter leurs produits. C'est l'amour et dans le Gers, c'est ça?
Oui, non, alors il y a beaucoup de stands des gens de l'amour et dans le pré, mais notre point de ralliement, c'est quand même le stand de l'Armagnac et dans le pré, donc avec Pierre et Fred, qui sont le couple emblématique de l'amour et dans le pré, et qui, Fred est une femme merveilleuse et qui a un grand sens du contact humain. Elle était géo Clomède, et elle a toujours gardé cette attitude-là. Et elle arrive à souder tout le monde et à ramener tout le monde sur son stand, et je dois dire que ça désemplit pas. On passe notre temps à signer des autographes et à faire des selfies. Il y a une ambiance formidable et il y a beaucoup de gens qui nous disent on est venu exprès. On a fait 500 ou 800 kilomètres pour venir au Salon de l'agriculture uniquement pour voir les agriculteurs de l'amour et dans le pré. Donc je pense...
Donc vous dites c'est populaire et ça permet, ça amène les gens à ça. Paul, vous dites également que l'émission ne s'intéresse pas aux nouveaux profils d'agriculteurs. C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là, peut-être que c'est caricatural.
Y en a un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait quelques néo-ruraux. Ça, c'est intéressant aussi puisque c'est une population croissante des agriculteurs et qui apporte énormément de fraîcheur dans la profession. Il y en a un petit peu, peut-être pas assez, mais il y en a un petit peu.
Oui, mais il faut en trouver des nouveaux agriculteurs qui soient célibataires. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup encore et qu'en général, ils s'installent en couple sur du bio.
C'est vrai. Et puis aussi, quand ils s'installent, ils n'ont pas forcément le temps l'émission. Parce qu'il faut rappeler quand même que les agriculteurs, c'est des héros. Quand on vous dit que vous allez travailler 80 heures par jour...
Par semaine, parce que par jour, ça va être dur.
Pour les éleveurs, 365 jours par an.
Oui,
vous allez gagner 350 euros. Vous êtes gestionnaire d'entreprise, comptable, juriste, électricien, mécanicien, plombier, accessoirement un petit peu agriculteur. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui signent.
Et encore 350 euros, c'est quand il y a un cheval qui n'est pas malade. Parce que l'argent, il part chez le vétérinaire plus facilement que pour nous soigner, nous. Moi, je vais rarement chez le médecin, mais le vétérinaire, il est souvent à la maison.
Mais avouez que ça, on ne le voit pas dans l'émission.
C'est vrai qu'il faudrait qu'ils
si,
en parlent
un peu
plus. Si,
je pense que de plus en plus, ils se rendent on s'en rend compte quand même. De plus en plus, je pense que la société de production rentre dans le jeu des agriculteurs, parce qu'au départ, ils ne parlaient pas du tout des problèmes d'agriculture. C'était une émission qui était peut-être un petit peu superficielle, et ça a beaucoup évolué.
14e saison. Hein.
Oui, voilà, 14e saison, ils ont beaucoup évolué. Ils commencent à parler des problèmes financiers, ils commencent à parler des suicides dans l'agriculture. Je pense qu'ils prennent conscience que c'est quand même une émission qui peut amener beaucoup, beaucoup pour le monde agricole français.
Mais vous, Annie, vous écriveriez à Didier, vous le trouvez beau?
Oui, vous pourriez participer comme ça.
J'aime ses shorts, en tout cas, parce que ça, c'était surprenant qu'ils reçoivent Karine Le Marchand en short.
On a Gérard en ligne avec nous. Bonjour Gérard.
Bonjour à vous tous. À vous toutes.
Bon, vous nous appelez d'où, Gérard?
De Condon, dans le Gers.
D'accord. Vous êtes agriculteur?
Non, j'ai pas été ouvrier agricole, j'ai été commencé ma vie comme bûcheron, donc voilà. Et puis, quand j'étais à l'école, j'avais un tronc commun, d'un côté il y avait les BTS agriculteurs, de l'autre les carrières sociales, et je peux vous dire que dans le monde agricole, il y a toutes les palettes de la société. C'est pour ça que quand on parle de l'agriculture, vous avez le paysan, quelqu'un qui a quelques hectares, qui vit chichement sur sa propriété, et en fonction de son intelligence, de son adaptabilité à la société, qui peuvent vivre très bien, très heureux, très équilibrés. Vous avez des gens qui, avec 50 hectares, vont très mal vivre, avec 100 hectares, vont très mal vivre. C'est comme dans toute la société. Vous avez ceux qui font, qui ont une très bonne éducation, qui ont un très bon équilibre, et qui vont très bien s'en tirer. Et puis, vous avez toutes les palettes de la société. C'est un arc-en-ciel. On trouve de tout. On trouve des gens très dégourdis, très développés, très modernes.
Oui, c'est ce que disait un petit peu Paul tout à l'heure. C'est-à-dire dire les agriculteurs, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Mais c'est en tout cas un métier qui est... C'est la terre, c'est ça qu'il faut
c'est
valoriser aujourd'hui.
C'est même le métier. C'est
la
le
terre
métier.
Ou la mer. Hein oui, ou la mer. La terre c'est, ou vrai, la mer, hein c'est vrai, vous avez raison.
Oui, puisqu'on a eu un...
C'est le métier.
Un agriculteur.
Je rappelle juste...
Un pêcheur, on a eu.
L'autonomie alimentaire de Paris et des grandes villes, c'est 2-3 jours. Donc c'est-à-dire que si on ferme les frontières, au bout de 2-3 jours, on a plus de quoi se nourrir, nous, les urbains.
Racontez-nous un petit peu, vous, ce que vous faites donc à l'ancienne, d'une plateforme de livraison. Ça concerne Grand Paris, l'Île-de-France
et Lyon.
Et il y a de plus en plus de sociétés comme la vôtre qui se développent pour aller du producteur au consommateur et éliminer tous les intermédiaires, et qui fait que le producteur, l'agriculteur est rémunéré au juste prix de son travail.
Exactement, l'idée c'est de beaucoup mieux rémunérer les producteurs. Donc on livre à domicile, en direct des producteurs locaux et agroécologiques, des produits ultra frais puisqu'ils sont cueillis le matin même et livrés le soir. On les livre chez vous à domicile en scooter électrique et en packaging recyclé. Et l'idée, c'est justement de reconnecter à travers le digital les agriculteurs et les consommateurs. Et donc, quand vous achetez des tomates sur l'ancienne, vous achetez les tomates de Thomas Paulmier, vous achetez les tomates d'Edouard Stalin.
D'accord, donc on connaît ce que vous disiez au début, le nom de l'agriculteur.
On connaît son histoire, on sait comment il travaille, on sait en fait la base. Et moi je pense que justement, si l'amour est dans le pré peut permettre aux gens de juste poser la question au marché de qui fait le légume et comment il s'appelle et s'il va bien, moi je pense qu'on a gagné.
Moi j'ai un marché par exemple en Île-de-France où il n'y a pas de maraîcher. C'est-à-dire que ce ne sont que des gens qui vont à Rungis et qui font de la revente.
C'est un peu le souci aujourd'hui, c'est que effectivement l'agro-industrie est passée par là et il y a beaucoup d'argent puisque c'est le premier marché du monde, la bouffe. Du coup, il faut faire très attention. Et l'important, justement, c'est de poser les questions et d'essayer de retrouver cette transparence que finalement, qui est, comme je disais tout à l'heure, mais logique, quoi. C'est quand même hyper intéressant de savoir qui a cultivé ses propres produits.
Merci à tous les deux. Merci Paul Charland. Donc ça s'appelle À l'ancienne. On peut retrouver sur Internet. Là, il y a une plateforme pour commander. Et puis Annie, merci d'avoir été également avec nous. Annie Ogras, donc candidate de l'émission 2012. Donc c'est positif puisqu'on parle de l'émission, qu'on parle des agriculteurs.
Je peux en rajouter une. Allez-y. Juste, je voulais dire à mon petit collègue là qui disait que lorsque tout le monde achètera du bio, on n'aura plus besoin de l'amour et dans le pré. Je suis pas d'accord parce que je pense que quand même c'est c'est une belle émission. J'espère qu'elle va vivre longtemps et
bon, ça marche très bien. Longue vie à l'amour et dans le pré, et bravo à Karine Le Marchand. Merci à tous les deux. Allez, le gagnant de notre grand jeu Bellambra, c'est Gilles qui est en ligne avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles.
Bonjour, oui.
Eh ben, vous avez gagné une semaine pour 4 personnes en demi-pension, mer ou montagne, vous choisirez. C'est le numéro 1 des clubs de vacances en France. Il y en a, on mange bien, tout est fait pour les enfants, 3 mois à 17 ans, des animations, du sport. Vous avez des enfants, vous êtes marié ?
Marié, 2 enfants.
Eh ben, c'est parfait, c'est parfait.
Voilà, super.
Et,
fait,
et alors, mer ou montagne ?
Les deux, la montagne peut-être, parce qu'on va beaucoup à la mer, mais... Ouais.
Bon, bah, ce sera l'occasion de tester la montagne, voilà. Donc dans un des 50 clubs Bellambra. Merci à vous, mais bah, bravo, puis merci d'écouter Sud Radio, Gilles. Gilles, pardon.
Merci, c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.
Eh ben, on est content pour vous. Bonnes vacances et merci à vous. Merci à tous les trois. Merci Gilles. On se retrouve nous dans un instant. On va parler sécurité routière, on va parler GPA et on va parler préférence nationale. À tout de suite.